j'ai pas du mal à parler de moi, mais une fois que ça devient, qu'on creuse un peu plus que les questions habituelles sur qui êtes-vous, que faites-vous, c'est vrai que ça, j'y réponds facilement parce que je n'ai pas de soucis à parler, mais ça bouscule en moi beaucoup de choses et donc je peux avoir toute une semaine en repensant à l'interview parce que ça a ouvert en moi des portes, quoi.
Bonjour. Plein de papiers posés devant notre invité. Il va y trouver des mots et se raconter. C'est le principe de ce podcast. Bienvenue. Notre invité a envie de vous faire rire depuis qu'à 8 ans. Il a vu un spectacle d'humour sur une scène namuroise. C'est cette voie qu'il va suivre, hein, celle de l'humour, faite de travail et de désillusions, si désillusions parisiennes, en fin d'adolescence. Une petite claque qui va le ramener sur les bancs d'une école de communication et dans sa chambre d'étudiant, où un jeune gars qui a envie de faire de l'humour a finalement tous les moyens à portée de main à cette époque où Internet supplante les médias traditionnels. Une vidéo pour amuser les copains qui en amènent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres. C'est Guillaume qui est avec nous aujourd'hui.
Bonjour, merci beaucoup pour cette belle mise en matière.
Alors Guillaume, les petits papiers, c'est des petits papiers.
Et oui.
Et oui. Avec des mots dessus, je vais vous les vous mélanger et puis vous piocher, puis on voit.
Hop là. Voilà. Style, est-il écrit. Style, mais c'est vrai que ce mot-là peut faire vibrer en moi plusieurs choses. Je pense que d'abord, j'ai très vite compris que quand mes premières vidéos fonctionnaient, c'est parce qu'il y avait un style, justement, dans le personnage que moi, j'avais pas vraiment perçu, mais dans sa voix, un peu nasillarde, de canard, m'a-t-on dit, dans son look, puisque j'avais déjà une paire de lunettes et un couvre-chef sur la tête. Et je sais que quand je demandais aux gens, bah, tiens, qu'est-ce qui vous fait penser à Guillaume Vous Détend, pour que je tente de comprendre un peu. C'est vrai que c'était le style du personnage qui revenait souvent, mais ça me fait penser aussi au style dans l'écriture.
Oui, mais sur les vidéos, en tout cas, il y a le style dans la forme aussi, hein, manière de faire.
Bien sûr. Je pense qu'il y a avant tout dans le style, j'ai tenté d'apporter dans ce format très court de moins de 3 minutes et avec un jump cut, comme on dit, très rapide entre chaque phrase et chaque séquence.
Expliquez-nous ce qu'est un jump cut.
Mais c'est vraiment le fait de couper, de ne pas laisser le temps à la séquence de se dérouler, comme on pourrait connaître un plan séquence, donc quand on n'arrête jamais la caméra.
Là, il y a des sautes d'images, en fait.
Il y a des sautes d'images qui sont très, très rapides, on parle de quelques secondes qui correspondent chaque fois à une phrase et donc où j'ai juste le temps moi de me positionner différemment dans l'image pour que quand on met play, on ait la sensation d'avoir une compilation en fait de toutes les phrases que mon personnage aurait pu dire sur une heure, sauf qu'on les a sur une minute trente. Et donc c'est vrai que c'est dans ce style que mon personnage s'est fait connaître.
Le style, Guillaume, c'est aussi, vous le disiez, le style du personnage avec la casquette, les lunettes. Je pense que le style, c'est quand même quelque chose sur lequel vous êtes en recherche depuis longtemps. Il paraît qu'à 6 ans, un jour, vous êtes habillé de manière complètement improbable et vous êtes allé sonner aux portes de vos voisins pour faire évaluer votre tenue.
Oui, c'est vrai que depuis tout petit, j'ai toujours chipoté dans les affaires de mes parents, dans les armoires, dans tout ce qui pouvait devenir un costume, même des choses qui n'étaient pas destinées à être portées. Et c'est vrai que j'avais ce besoin tout le temps de créer visuellement quelque chose. Tout petit, je passais ma vie avec des chapeaux sur la tête, des vestes que j'empruntais. Et un jour, je me suis déguisé et j'ai été faire le tour du village pour avoir une cote sur 10 à mes costumes. Et c'est vrai que ça a marqué mon enfance, le fait de pouvoir ne pas être soi.
Vous avez fait ça une fois ou plusieurs fois?
Non, plusieurs fois. Je passais réellement ma vie déguisée.
À aller sonner chez les gens.
Oui. Et puis j'allais surtout quand un ami m'invitait chez lui à dormir ou quand on avait un repas de famille ou que ma maman me prenait lors d'un moment où elle devait travailler mais qu'elle ne savait pas où me caser. Mais j'arrivais toujours avec quelque chose de visuellement réfléchi et pensé.
Vous parlez de ça, c'est à l'âge de 6 ans que ça a commencé. Vous dites déjà, j'ai toujours cherché un moyen de ne pas être soi.
Oui, je ne sais pas si au final, avec le recul, c'était une protection en plus que je me mettais ou si c'était l'envie d'être différent ou d'être remarqué. Je pense que de toute façon, ça éveille sûrement mille et une questions. Mais je me souviens être arrivé déguisé le premier jour de la rentrée scolaire pour la première primaire. et on m'a dit tu ne peux pas rentrer dans la classe déguisée. Et là, moi, ça a été un coup très dur, quoi. C'était vraiment plus qu'une mauvaise nouvelle, c'était vraiment un schéma que je remettais en question, qui pour moi était la normalité en fait. Et donc, je sais que ma maman a vécu avec moi, elle a vu dans mon regard que quelque chose s'abîmait. Et donc très vite, elle m'a invité au théâtre et m'a inscrit au théâtre très très jeune, à 7-8 ans. Mmh. Et donc, elle m'a fait prendre conscience que je n'avais pas fauté en arrivant déguisé, mais qu'il existait dans la société des moments ou des lieux et des envies particulières, etc., qu'on peut exprimer. Et donc, c'est via mes cours de théâtre que j'ai compris qu'on pouvait passer sa vie à se costumer.
Et aujourd'hui, il y a toujours des personnages, Guillaume, dans votre spectacle, dans vos chroniques, dans vos vidéos. Il y a toujours des personnages. C'est encore un peu la même chose. C'est encore un peu peut-être se cacher derrière, ne pas s'exposer soi au premier plan.
Oui, c'est vrai que je peut-être pour ne pas répondre à mes questions sur moi, je préfère adopter le comportement et le physique d'un autre. Alors on reste dans le domaine de l'accessoire et du gag, dans le sens où je ne me prends pas pour un acteur de composition, mm-hmm. etc. Mais c'est vrai que c'est une part très importante de mon quotidien, de puiser dans le comportement des gens que je croise, dans garder un souvenir et puis d'en faire soit un sketch, soit une capsule, soit un moment entre amis où j'imite ce que j'ai pu voir et entendre. Et c'est vrai que je me sens beaucoup plus à l'aise parce que même mon personnage à moi est un personnage. Donc le Guillaume que j'ai créé avec le recul, même si j'en étais très proche au début, est un personnage. Et les moments où je me découvre moi, en tout cas, ils sont rares, mais ils sont précieux puisqu'ils sont vraiment dans une sphère très privée, quoi.
Alors Guillaume, aujourd'hui, vous êtes assis en face de moi, hein, je vous fais parler un peu de vous. Est-ce que c'est un exercice difficile, ça ?
En tout cas, comme je savais qu'on allait en parler, je m'y suis préparé. Et c'est vrai que j'ai pas du mal à parler de moi, mais une fois que ça devient, qu'on creuse un peu plus que les questions habituelles sur qui êtes-vous, que faites-vous, c'est vrai que ça, j'y réponds facilement parce que je n'ai pas de soucis à parler, mais ça bouscule en moi beaucoup de choses et donc je peux avoir toute une semaine en repensant à l'interview parce que ça a ouvert en moi des portes, quoi.
D'accord. Bon, on va essayer d'être bienveillant.
Hein. Oui, mais ne vous inquiétez pas.
Vous répondez à ce que vous voulez, Guillaume.
Hein,
vous
sûr.
N'êtes obligé de rien dans cette émission.
Non, c'est sûr. Hop là. Faculté d'adaptation. Ah, oui, ça. Oui. Oui, enfin, je sais qu'on me l'a dit. Enfin, je sais que j'ai ma sœur, ma maman, surtout. Et puis les gens avec qui je travaille m'ont dit que j'avais une certaine faculté d'adaptation. Je pense tenir ça de mon papa et de ma maman, dans le sens où, même s'il me faut du temps d'adaptation, surtout quand je rencontre de nouvelles personnes, dans un projet encore plus, dans un projet qui rassemble plus qu'une personne et que je ne connais pas, il me faut beaucoup de temps pour m'adapter à la personne, mais en tout cas à la situation, je tente de vite en comprendre les tenants et les aboutissants, et donc j'arrive vite à trouver ma place, et si c'est mon rôle, à donner la place à chacun et chacune, quoi.
Ouais, vous dites que c'est grâce à vos parents, Guillaume, que vous avez peut-être cette faculté, cette qualité de vous adapter. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'ils vous ont donné pour que vous ayez ça ?
Mais je pense que mes parents ne m'ont pas délibérément transmis une faculté d'adaptation, mm-hmm. parce que mine de rien, je pense qu'on l'a aussi ou on l'a pas en nous. Mais je pense que mes parents étaient très actifs dans leurs métiers respectifs. On vivait dans un immense moulin qui était à refaire entièrement quand ils l'ont acheté. Et donc, c'était déjà une première faculté d'adaptation, c'était de ne pas avoir une maison dite normale, puisqu'on vivait un peu dans les travaux. Et puis, même dans les pièces finies, ça restait des pièces particulières puisque c'était un ancien moulin à blé. Donc, il y avait parfois des très hauts plafonds, parfois des très bas plafonds, mm-hmm. des escaliers qui n'en finissaient plus, etc. Et donc, très jeune, quand on allait chez nos copains, on avait droit à des maisons quatre façades normales.
Terminé,
et donc, on avait limite plus de mal à s'adapter à des maisons normales. Et donc, je sais qu'ils nous emmenaient beaucoup sur leur lieu de travail. Ils nous laissaient aussi une liberté de pouvoir aller se balader dans le village avec nos copains, etc. Et donc, on a eu un cadre très particulier qui nous laissait aussi beaucoup de place à notre découverte personnelle d'une grande maison, du village.
Des plongées dans des univers différents aussi.
Oui, c'est ouais. Ça. Je sais que voilà, mon papa travaille au département audiovisuel des facultés de Namur et donc il m'emmenait sur ses tournages. J'avais les coulisses des petites émissions qui se déroulaient pour les facultés, mais il réalise aussi des petits courts-métrages avec les étudiants, etc. Ma maman, quant à elle, travaillait au plus beau village de Wallonie, mais a très vite rejoint un parti politique. Mais en parallèle, elle mettait en place un festival justement de théâtre dans la commune d'Assès. Et je sais que moi, j'étais toujours friand d'accompagner. J'étais toujours collé à ma maman. Et donc, j'ai très vite découvert le monde des adultes. Et donc, je voyageais un peu comme ça. On était un peu trimballés,
mais
positivement entre les deux. Et je pense que du coup, je me suis souvent amusé seul, au final, avant d'avoir toute une bande d'amis. C'est aussi cette manière-là de... On était dans une famille recomposée. Donc, du jour au lendemain, ma sœur et moi, on a vu débarquer un grand frère et une grande sœur dans notre maison, etc. Et je pense que tous ces éléments-là, dans cette grande maison, en travaux toute notre enfance.
En évolution permanente.
Et en plus, on l'avait baptisé comme dans un moulin. Et du coup, il y avait vraiment tout le temps des gens qui passaient. Et je pense que c'est aussi de là que j'ai acquis une certaine faculté d'adaptation. Oui.
Si vous aimez le principe de ce podcast, n'hésitez pas à aller fouiller dans les épisodes anciens. Il y a plein d'artistes qui se racontent à travers les mots. Et n'hésitez pas à nous suivre non plus et à vous abonner. Comme ça, vous n'en loupez aucun.
Entourage. Ah oui, ça c'est sûr. Que je ne suis pas étonné que ce mot figure dans le pot de vos petits papiers. Ça fait maintenant 1 an et demi, 2 ans que j'ai décidé de prendre les rênes moi-même de tout ce que concernait...
Pardon, vous avez travaillé longtemps avec François Pirette.
Oui, j'ai travaillé 2 ans, à peu près 2 ans avec François Pirette avant
Je dis longtemps parce que votre carrière, vous êtes encore jeune.
Oui, c'est ça. Deux ans, c'est beaucoup. Oui, exactement. Et c'est vrai qu'en grandissant, je me suis dit, j'ai envie d'apprendre seul les différentes étapes. J'ai envie de faire des erreurs seul. Et j'ai envie d'apprendre aussi les coulisses de ce que représente le travail de la création, de la production artistique et humoristique. Et donc, j'ai décidé de constituer moi-même une petite équipe. Et donc, c'est vrai que ça fait bientôt 2 ans maintenant qu'aux côtés de ma grande sœur, j'ai voulu créer l'univers et la manière de travailler qui allait se dessiner autour de mon personnage. Et voilà, je me suis entouré d'une sacrée bande, et d'ailleurs qui est très féminine.
Oui, j'allais dire, il paraît qu'il y a beaucoup de femmes autour de vous, dans votre entourage professionnel.
Globalement, en fait, c'est vraiment inconscient, parce que voilà, moi, c'est vrai que je veille à ce qu'il y ait toujours une parité dans ce que je fais, même dans le festival, on en parlait tout à l'heure, même dans la programmation artistique du festival, j'ai veillé à ce qu'il y ait une parité. Mais je pense que la présence de femmes autour des postes décisionnaires du projet de Guillaume Voudétang, je pense qu'elle vient vraiment mon enfance, puisque j'étais très proche de mes deux grandes sœurs, de ma maman. J'ai eu des profs de théâtre féminins qui m'ont vraiment marqué. J'étais très proche de mes profs, une fois de plus féminins, à l'école. Et je pense que j'ai toujours voulu avoir un référent féminin inconsciemment. C'est quelque chose qui me rassure énormément depuis que je suis tout petit. Et je m'en suis rendu compte quand j'ai fait un bilan de qui travaille avec moi et que je me suis rendu compte qu'au poste important, il n'y avait que des femmes.
Vous parlez de référent féminin. Je pense que le mot que vous avez le plus dit depuis le début de cette émission, c'est maman.
Oui.
Maman. Donc évident, ça veut dire que vraiment, là aussi, il y a encore aujourd'hui ce lien, cette référence.
Oui,
vous allez chercher conseil chez elle.
Oui, ma maman et mes grandes sœurs, ça c'est sûr qu'on s'entend au moins une fois, voire beaucoup plus par jour. Et elles font partie de mon entourage, puisque c'est le cas de le dire, au quotidien.
Qu'est-ce que vous attendez de votre entourage par rapport à vous, à ce que vous êtes, à votre métier, et peut-être même par rapport au succès ?
C'est vrai que, en tout cas, je n'attends pas quelque chose de mon entourage, dans le sens où je ne leur demande pas quelque chose, parce que c'est aussi particulier pour eux d'avoir un frère, un ami, un petit copain, un fils qui a décidé de choisir la voie artistique et qui, du coup, est considéré comme personnalité publique. Et du coup, je veille aussi à ce qu'ils attendent de moi dans mon rôle privé. Mais en tout cas, si je n'attends pas quelque chose d'eux, je sais qu'ils sont mon entourage parce qu'ils m'apportent ce regard de bienveillance qui peut vite disparaître dans le milieu artistique ou dans le milieu public. Et donc, que ce soit mes amis, ma famille, mon amoureuse, il y a vraiment ce lien qui me permet justement d'être celui que j'ai toujours été avant même d'être Guillaume vous détend.
J'allais dire de bienveillance et peut-être aussi de temps en temps de recadrage ou pas.
Oui, oui, oui. Et ça, c'est vraiment un rôle, une fois de plus, qui vient, mais de manière très saine, parce que je ne fais pas partie des profils qui pètent une durite, comme on dit, qui soudainement se sentent pousser des ailes. Mais je pense que quand je veux en faire de trop, par exemple, quand j'ai beaucoup de projets et que je m'impose un rythme assez intensif, comme c'est le cas pour cette rentrée, il y a un recadrage de la part de mon amoureuse, de ma sœur, de ma maman, sur le fait que je reste un humain. Il y a un recadrage de la part de mes amis, quand ils considèrent que je ne les vois pas assez et qu'ils passent beaucoup de temps sans moi. Il y a un recadrage de leur part qui dit t'as aussi ce rôle-là à nos côtés. Il y a un recadrage de la part de ma grande sœur qui est infirmière et qui veille à ce que je respecte aussi mon corps. Mais en tout cas, il n'y a pas eu de recadrage.
On n'a jamais dû vous dire « Oh, tu commences à te la péter, là,
non,
tu veux
voilà.
un peu te calmer maintenant ?»
Parce que dès le début, il y avait ce cadre. Mmh. En fait, ce cadre instauré dans ma famille sur le fait qu'il était important que je garde les pieds sur terre. Ils m'ont très vite dit que de toute façon, ça restait des cycles et que il n'y avait pas de raison de s'enflammer, surtout à notre époque où on consomme les artistes à la minute, on les consomme, si pas à la minute, en tout cas à l'heure. Et donc, s'installer dans le temps, c'est un vrai travail, et je pense que c'est un travail d'humilité. Et du coup, ça, c'est vraiment des choses que j'ai apprises très vite. Ma maman y a veillé très tôt quand elle a vu, quand on allait faire les courses ensemble, je faisais des photos. C'est anecdotique pour beaucoup, mais pour ma maman, ça a été un pas important. Et donc, elle a très vite mis les cadres, qui fait que je n'ai pas dû être recadré par rapport à ça, mais plus recadré par rapport au moment important maman me dit, tu dois être là. À ce repas-là. J'ai donc parfois annulé des rendez-vous pros. Non pas que ma maman ne veuille pas que j'aille à ces rendez-vous, mais parce qu'elle considère que c'est aussi mon rôle d'être présent avant tout pour
la famille.
Ouais, exactement.
Guillaume, tout à l'heure, vous avez dit que vous avez repris la production de toutes vos activités. Ou en tout cas, vous avez dit, j'ai fait ça parce que j'ai envie d'apprendre. Est-ce que vous avez fait ça aussi parce que vous avez peut-être un peu envie de tout contrôler?
Oui. Mais ça, de toute façon, je savais que vous alliez lire en moi bien plus vite que n'importe qui. C'est peut-être l'interview que j'appréhendais le plus. Connaissant votre émission, je connais aussi votre sensibilité par rapport à vos invités. Donc je suis pas.
Ça me touche. Merci.
Je ne suis pas étonné de l'angle que vous avez choisi et de ce que vous me dites là maintenant par rapport à l'envie de tout contrôler. C'est vraiment quelque chose de pas facile. Je vais pas vous mentir. J'ai une part de moi qui a une facilité à déléguer parce que j'ai appris qu'on ne pouvait pas faire ça tout seul et j'ai appris que même en matière d'enrichissement dans des projets, c'est important de pouvoir le partager avec d'autres. Sinon, on est content mais on vit ça tout seul. Mais malgré tout, j'ai ce besoin d'être présent sur toutes les décisions. J'ai ce besoin d'anticiper tout et je suis très vite mal. Je peux vite très vite mal vivre une situation que je ne maîtrise pas, qui ne dépend pas de moi, ou pour laquelle soit de un j'ai rien à dire, soit j'ai eu mon mot à dire mais il n'a pas été écouté. Mais par contre, par chance, je me suis entouré de gens pour qui il est très facile de me rassurer, de dire non Guillaume, ça se passe très bien, moi j'ai fait ça parce que tu me l'as demandé, ça se passe bien, etc. Et j'ai surtout appris à vouloir tout contrôler d'une manière très saine. Et c'est ça qui peut-être m'a manqué dans toutes les relations que j'ai eues depuis tout petit, dans les relations professionnelles ou dans mes cours de théâtre à Paris, etc. C'est apprendre à tout contrôler, mais de le faire d'une manière très, très simple et très, très saine. Et donc, les gens avec qui je travaille, parce qu'on n'a pas non plus une multinationale, je travaille avec ma grande sœur, j'ai travaillé avec Barbara qui s'occupe de la production de mes vidéos, Julie qui s'occupe de ma tournée et Maya qui s'occupe de mon stylisme et de mon assistance au quotidien. Donc on n'est pas non plus. Mais c'est vrai que parfois elles me disent merci pour ta confiance et elles me disent pas ça dans le sens waouh Guillaume tu me donnes ta confiance. Elles disent ça parce qu'elles savent que c'est compliqué pour moi de faire confiance et donc elles me le rappellent que j'évolue et que j'apprends
à lâcher
du lest et j'apprends et je ne savais pas que c'était possible de pouvoir faire confiance à quelqu'un les yeux fermés. C'est des choses qui sont toutes nouvelles pour moi et que j'apprends seulement maintenant à 29 ans.
D'où l'importance de l'entourage et de bien s'entourer.
Ouais, exactement.
Et voilà.
Ben voilà.
Et voilà.
La boucle est bouclée.
Prenez un mot, Guillaume.
Oh là, j'adore cet exercice.
Ah, vous voyez, hein, vous aviez peur.
Reconnu. Bah tiens, tout est lié.
Oui.
Oui. Et une fois de plus, ce mot a plusieurs significations. Mais c'est vrai que j'en parlais tout à l'heure quand je vous parlais de mon envie d'être remarqué quand j'allais en classe, quand j'allais en rue, chez mes voisins. En tout cas, je ne formulais pas ça plus jeune comme voulant être reconnu. Moi, je ne mettais aucun mot quand j'étais jeune sur le fait qu'il fallait qu'il se passe quelque chose. Même les repas de famille étaient très ennuyants pour moi. Mmh. Et le son encore, mais pas parce que je m'ennuie avec ma famille, mais parce que une fois qu'il y a plus de 4 personnes à une table, c'est pour moi une scène.
Ah oui.
Et donc, il faut qu'il se passe quelque chose.
Vous ne pouvez pas vous empêcher.
Non, il faut qu'il se passe quelque chose. J'adore les moments d'intimité quand on est 2 ou 3 ou comme on l'est maintenant tous les deux. Mais on serait dans une émission où il y a plus de
3 chroniqueurs autour de la table, ce serait différent.
Il y a une deuxième partie de mon cerveau qui travaille et qui crée l'événement. Mm-hmm. Et donc, c'est vrai que depuis tout petit, même si je ne le formulais pas comme ça, c'est aussi une part d'ennui.
C'est une manière de se faire aimer aussi.
Et c'est une manière de se faire aimer ou détester, parce que on titille les gens pour qu'il se passe quelque chose et on ne se rend pas compte que la personne en face le vit pas spécialement bien, etc. Donc je pense qu'il faut qu'il se passe quelque chose. Et donc quand j'ai le mot reconnu, avec le recul, c'est une part de moi qui, en classe quand j'étais adolescent et que je me faisais remarquer, c'est une façon d'être reconnu. J'étais pas un mauvais élève en classe, j'étais pas bon non plus. Et quand on est moyen, ça nous suffit pas, puisque du coup on passe inaperçu. Donc il fallait que je sois reconnu dans autre chose.
Donc vous faisiez le pitre un peu.
Et donc voilà, ouais. Je prenais beaucoup de place pendant les cours, aux intercours, en récréation. Et je pense qu'aujourd'hui j'ai réussi à dompter cette part qui veut être reconnue et à l'être limite pas spécialement publiquement, mais dans ce que je suis en mesure d'arriver à faire, quoi.
Ouais, mais ce qu'il y a aussi, c'est que peut-être que le succès de votre travail, de vos vidéos, de vos chroniques, de tout ce que vous faites, peut-être que ça compense un peu cette nécessité d'être reconnu ailleurs.
C'est ça, je pense que quand on arrive à un stade où nos semaines sont remplies et par chance, en faisant ce qu'on aime, ce qui n'est pas le cas d'une grande partie de la population, entre la chronique, les vidéos et la promo d'une tournée, quand on joue devant des milliers de personnes, la préparation d'un festival, ce qui englobe du coup des milliers de personnes dans une ville, comme vous le dites, ça peut compenser ce que je cherchais quand j'étais plus jeune et que je n'avais que les repas de famille ou les classes pour le faire.
Être reconnu dans la rue, c'est compliqué parfois ou ça va ?
Compliqué, non, parce que j'ai vraiment toujours eu du mal à comprendre le fait que c'est compliqué. Mais je pense que c'est parce que je n'ai jamais vécu ce que peut ressentir une star internationale ou une star à la Stromae qui, pendant toute sa période, c'était incapable pour lui de sortir en rue.
Il doit se cacher, oui, ou en tout cas...
C'est toujours resté un succès du fait que ma communauté n'a jamais été hystérique. Et donc, j'ai toujours été reconnu en rue, mais de manière très bienveillante et très respectueuse. Et je considère que ça reste malgré tout une part de mon travail. Mm-hmm. Moi, quand j'ai appris que je pouvais vendre des places 35, voire 45 euros pour des gens qui viennent me voir, c'est une preuve de quelque chose, cet acte d'achat. Pour des familles qui viennent à 5 ou 6, c'est un budget vacances, quoi. Et donc, je me suis très vite dit... il est évident que quand je les croise, je m'arrête. Alors, c'est pas pour jouer la fausse humilité du gars qui prend le temps, contrairement à d'autres, de s'arrêter. C'est juste que comme j'ai l'occasion d'avoir des échanges qui sont sains, qui sont pas hystériques, il n'y a pas soudainement 200 personnes qui se mettent autour de moi, bien que ça me soit arrivé devant une école ou des choses comme ça, mais je veux dire, reconnu en rue, c'est plus... c'est pas une consécration, parce que je pense que à l'heure actuelle beaucoup sont reconnus en rue, surtout avec les applications TikTok, etc., Instagram, mais sans qu'on sache vraiment qui ils sont. Donc c'est loin d'être une consécration, mais par rapport au travail que j'effectue depuis plusieurs années, le fait qu'on m'arrête en rue, ça reste un moment où tu te dis en tout cas, je ne le fais pas pour personne, quoi.
Ouais. Je vous demande si c'est difficile, parce que j'ai peut-être l'impression, et peut-être que je me trompe, qu'en petit comité, comme vous disiez tout à l'heure, ou en face à face avec quelqu'un que vous ne connaissez pas et qui s'arrête peut-être pour vous féliciter, je ne suis pas sûre que ça, vous ne soyez pas un peu sur la timidité ou la réserve par rapport à
ça. Oui. C'est vrai qu'en plus, comme le personnage que j'ai créé, on ne peut plus, extraverti et ne mâche pas ses mots. Et c'est vrai que du coup, quand je tombe sur quelqu'un ou que quelqu'un tombe sur moi, de un, je suis toujours un peu plus timide, mais surtout que je ne sais pas ce qu'il attend de moi. Est-ce qu'il attend que je lui parle en tant que Guillaume normalement? Est-ce qu'il attend de tomber sur mon personnage et donc d'être face à quelqu'un qui va prendre toute la place, etc. Et donc je sens qu'il y a quelques secondes de qu'est-ce que je dois te répondre avant qu'il prenne le relais pour une photo ou pour me dire quelque chose. C'est ce qui me permet de me sauver au final. Mais il n'attend pas de moi une prestation et je pense que c'est ça qui me sauve. Mais c'est vrai que il y a vite cette envie de ne pas décevoir qui revient. Tu te dis, mais s'il repart et qu'il se dit, ouais, en fait, en vrai, il est plus calme, etc. Autant j'ai tenté d'être hystérique la première fois qu'on me rencontrait. Et même en interview, je pensais que je devais être Guillaume tout le temps. Et en grandissant, j'ai compris que je n'étais pas mon personnage. Puisqu'en grandissant, je m'éloignais de ce que lui revendiquait. Etc.
J'ai presque envie de dire, heureusement, Guillaume. Hein.
Et voilà. Et puis si dans 10 ans, j'étais encore l'adulte qui joue aux ados dans sa chambre, ça aurait été limite glauque. Et donc, aujourd'hui, j'arrive à prendre un peu de recul. Et donc, je vis beaucoup plus facilement le fait qu'on puisse me reconnaître dans un restaurant, etc. Je n'ai plus ce besoin de prouver que je suis comique. Et je pense que les gens le comprennent plus facilement grâce aux réseaux sociaux Instagram, par exemple, où ils peuvent me suivre en story et donc voient que je ne suis pas tout le temps...
Tout le temps le personnage, voilà. Tout le temps comique, tout le temps...
Voilà, c'est ça. Ouais. Et je trouve que c'est quand même plus sain, même pour moi ou mes proches, de ne pas être face à Guillaume au quotidien.
Ouais. Alors Guillaume, j'en profite puisque vous parlez, je vais pas rester tout le temps l'étudiant dans sa chambre. Le nouveau spectacle, c'est un étudiant qui a grandi. Hein.
Oui, c'est vraiment ça. Et moi, je trouve vraiment, enfin, je ne vais pas vous mentir, c'est plus qu'un bonheur d'être sur scène parce que je défends un spectacle qui représente vraiment ce que je voulais faire, ce que l'enfant que j'étais rêvait de faire sur scène et il témoigne vraiment de ce que le personnage est devenu, c'est-à-dire que on parle d'un adulte ou en tout cas d'un jeune adulte et c'est un bonheur pour moi d'être face à des gens qui n'attendent plus de moi que je parle du milieu scolaire, qui attendent juste de découvrir ce que mon personnage a à raconter à son âge et de s'identifier aux étapes cruciales du passage de la fin de l'adolescence à l'âge adulte. Ça parle à tout le monde, à ceux qui ne le connaissent pas encore et qui y approchent, à ceux qui sont en plein dedans et à ceux qui l'ont connu. Au-delà de l'école, c'est encore plus universel que l'école parce que ça aborde des thématiques dans la vie de tous les jours hors milieu scolaire. Et donc, on touche un champ des possibles encore plus grand. Mmh. Et donc c'est vrai que le personnage de Guillaume sur scène est pour moi encore plus complet que lors du premier spectacle parce qu'il peut avoir un avis et donne son avis sur des faits sociétaux, sur des moments de la vie qui touchent aussi ceux qui n'ont pas spécialement eu la chance d'aller à l'école dans des bonnes conditions, par exemple. Quoi. Il se retrouve dans ce spectacle comme n'importe quel individu. Et c'est vraiment ça qui était important pour moi.
Oui, et puis il vit les premiers grands événements qu'on vit à 29 ans.
Oui, c'est ça, c'est vraiment ça. C'est son premier déménagement, ses premières factures, ses premiers documents d'administration, le premier mariage de sa bande de potes.
Premiers enterrements,
etc. Et donc c'est vrai que mon personnage apporte un côté encore plus humain à ce qu'il est, mais est aussi tout autant paumé que quand il était à l'école.
Oui.
Quoi. Et c'est vraiment ça qui est très drôle dans ce spectacle, c'est qu'il compare les contes de fées, les dessins animés, les histoires qu'on lui a racontées quand il allait au lit, l'image qui s'est faite de la liberté, ça y est, je quitte mon domicile, et l'arnaque dans laquelle il se retrouve avec la fameuse phrase on nous a menti.
Oui.
Et donc c'est là que la drôlerie arrive dans ce spectacle, c'est quand il va comparer ce qu'il pensait de ce qu'il constate, et c'est là que le public se rend compte à quel point on est tous bercés dans un même mouvement, et que c'est pas plus mal parfois qu'il y ait un mec qui lève la main et qui dise on est d'accord qu'on est tous perdus dans ce qu'on est en train de vivre.
Et
donc c'est vraiment ça. Et donc Guillaume vous détend le grand, et cette fameuse affiche dans laquelle je suis en roi, elle fait justement allusion à ce monde imaginaire des rois, des reines, des princes, des princesses dans lequel on nous a bercés quand on était
petits, du conte de fées qu'on nous a vendu
et du roi maladroit que mon personnage est quand il réalise que le fameux royaume qu'est notre société est quand même beaucoup moins glamour que ce qu'on nous a raconté. Et le grand, tout simplement, parce que vous le constatez en vrai, je ne suis pas très grand, mais mon personnage, lui, a grandi et veut être un roi. Quoi qu'il arrive, il veut essayer de comprendre pourquoi on lui a dit plus tard, tu pourras être libre et faire ce que tu veux, et réaliser qu'en fait, sous le costume du roi, sous les titres qu'on nous donne, sous les étiquettes qu'on nous donne et sous les rêves qu'on nous a discrètement glissés en poche, il y a quand même du boulot, quoi.
Et ouais, on reste quand même toujours un peu tout petit. Hein.
Voilà, c'est ça.
Voilà,
exactement.
Ça. On n'a plus le temps de faire des mots.
Ah ben non, hein, mais je m'en doutais, c'est pour ça que j'ai savouré ceux que j'ai pêchés.
Ben ouais, voilà, donc ouais, il en reste, on va les garder pour une prochaine fois peut-être.
Avec plaisir.
Guillaume, merci d'être venu.
Mais merci à vous.
Ça surtout. A été quand même, parce que vous aviez peur.
Ah oui, mais c'est un exercice pas facile, mais ma timidité n'est quand même pas maladive à ce point-là, non. Et puis ça fait du bien. De prendre le temps. Donc, vous faites partie des moments radiophoniques où on peut prendre le temps. Donc, ça me fait du bien de me poser.
Ben merci Guillaume, et puis j'espère que vous allez être tranquille avec ça, parce que vous dites parfois je pense à une interview pendant une semaine. Ça va aller, moi je trouve ça très bien. Hein.
C'est gentil,
soyez
merci
rassurés.
Beaucoup.
Merci beaucoup d'être venu.
Avec plaisir, à bientôt.
Merci d'avoir été à l'écoute. Il y a une multitude d'artistes à découvrir dans les épisodes des Petits Papiers. N'hésitez pas à aller faire un tour et n'hésitez pas à vous abonner. Comme ça, vous serez au courant de tous ceux qui arriveront dans le futur. Et puis, vous pouvez laisser au passage quelques étoiles et commentaires. Ça nous fait toujours plaisir et ça permet à encore plus de gens de nous découvrir. À bientôt !